Bon, je suis très heureux de vous présenter cet après-midi dans la suite de ce colloque passeur. Je suis très heureux de vous présenter Richard Schusterman, qui est professeur à l'université de Floride, exactement à Boca Raton. Richard Schusterman est l'auteur d'un nombre important de livres. Parmi ces nombreux livres, j'en citerai certains qui sont traduits en plusieurs langues, notamment ceux qui sont traduits en français. L'art à l'état vif, la pensée pragmatiste et l'esthétique populaire, qui a été publié donc à l'édition de Minuit en 1992, Sous l'interprétation, 1994, Éclat, La fin de l'expérience esthétique aux presses universitaires de Pau, Vivre la philosophie chez Klingsic en 2007, Conscience du corps pour une soma esthétique, L'éclat 2007. Peut-être pour faire la transition avec ce colloque, je vais revenir à quelques passages du dernier livre, Conscience du corps pour une soma esthétique, où tu évoques les problèmes de traduction. Traduction, awareness, consciousness, un certain nombre de termes qui, au fond, trouvent difficilement l'équivalent en anglais. Conscious, d'un sentiment corporel, mais on peut être aware d'avoir ce sentiment, un sentiment conscious. Donc ici, on est en présence d'un problème, dis-tu, de difficulté de traduction. Un mot comme « awareness », qui veut signifier la démultiplication des niveaux de conscience, ne trouverait pas d'équivalent en français. Et au fond, on peut dire que le terme qui qualifie ta philosophie, cette grande philosophie du corps, qui est une sorte de généalogie, en quelque sorte, des relations du corps et de l'esprit en Occident, voire dans le monde, puisque tu fréquentes également la pensée asiatique. On pourrait dire qu'au fond, le mot qui correspond le mieux à la définition de ton souci philosophique serait la soma esthétique. Et la soma esthétique, si on regarde l'étymologie de ces mots, on se trouve du côté de la Grèce. Hein, soma, le corps, esthétique, esthésis, sensation, sentiment. On est donc du côté d'une sorte de tradition antique. Alors cette tradition antique, on la retrouve au niveau le plus élevé dans toute ton entreprise. Une entreprise qui, en quelque sorte, flirte avec un certain nombre de philosophes. Hein. Je citerai entre autres Ado, avec ce retour à la philosophie antique comme philosophie non seulement théorique, mais pratique. Hein. Philosopher, c'est apprendre à vivre. Vous voyez bien que je prends le contre-pied de la célèbre définition platonicienne, hein, apprendre à mourir. Philosopher, c'est apprendre à vivre. Et pour, en quelque sorte, mettre en avant cette philosophie de la vie, eh bien, tu fais un retour très important aux deux grands oubliés, peut-être, de l'histoire de la pensée. Alors, c'est pas l'être, comme Heidegger, mais c'est à la fois le corps et l'art. L'art à l'état vif. Et je crois que chez toi, il y a ce souci constant qui traverse tous tes écrits de faire réapparaître cette importance du corps dans sa relation avec l'esthétique. Et bien évidemment, cela peut donner lieu à un certain nombre de confusions, hein, des confusions qui, en quelque sorte, s'enracinent dans toute une histoire de la pensée. Et une histoire que souligne quelqu'un comme Ado, hein, qui rappelle que le gymnasium, donc le gymnase, hein, c'est le lieu où on pratique bien évidemment les exercices sportifs de gymnastique, donc nu, hein, gymnos, hein, qui veut dire nu, mais c'est également le lieu où l'on pratique les exercices théoriques de réflexion. Savoir que c'est dans un même lieu qu'on va développer les virtualités du corps par un certain nombre d'exercices, hein, où résonne chez nous, héritant d'une sagesse judéo-chrétienne, le mot ascèse, mais ici le mot exercice, et le mot également d'exercice de conscience théorique, hein, les deux pouvant en quelque sorte se compléter. Gymnastique, sport, hein, et cette idée de sport, je crois que dans tout ton travail, tu mets bien évidence le S du ex, hein, faire du sport, c'est pas simplement se bien porter, mais c'est se déporter, hein, se déporter ailleurs. C'est pour ça que tu distingues d'une manière très fine la soma esthétique représentationnelle, qui peut-être a plus particulièrement cours à Miami ou sur les côtes de Floride, avec un certain nombre de pratiques en effet corporelles que tu évoques, hein, comme le bodybuilding, comme un certain nombre de diététiques, hein, qui veulent nous rendre en quelque sorte conformes à une certaine image qu'on attendrait de nous. Et tu montres comment il peut y avoir là une tendance mortifère, hein, qui est signalée par un très grand nombre de philosophes. En même temps, tu ne tombes pas dans le piège de croire qu'il suffirait d'être beau pour être bête. Hein. Ça aussi, c'est important à signaler. Et donc, tu mets à l'avant, à côté, un souci esthétique de soi, hein, qui passe par Michel Foucault, que tu relis avec beaucoup, beaucoup de finesse dans ce très beau livre que je vous conseille, qui s'appelle « Conscience du corps pour une soma esthétique ». J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et donc là, tu mets en évidence une soma esthétique expérientielle, c'est-à-dire qu'une expérience du corps qui va développer un certain nombre de ses possibilités pour stimuler des possibilités affectives, des possibilités cognitives et intellectuelles. Donc là, il y a toute une tradition, en quelque sorte, de la philosophie qui trouvera chez quelqu'un comme Spinoza, qui met en évidence les passions tristes, hein, dans leur lien avec le développement du conatus à un niveau physique, comme à un niveau affectif, comme à un niveau intellectuel. Peut-être que Spinoza est peut-être l'ancrage de cette réflexion. Alors, cette soma esthétique que tu développes, comme tous les grands philosophes, hein, je considère que Richard est un immense philosophe, en ce sens qu'il fait réapparaître ces deux grands oubliés de toute l'histoire de la philosophie occidentale, sinon orientale. Donc, en faisant cela, ben, tu fais ce que font tous les philosophes, savoir que tu relis toute l'histoire de la philosophie à travers cette problématique. Et je vais terminer sur ces analyses tout à fait remarquables que tu fais d'un certain nombre de philosophes, hein, comme Michel Foucault. Alors, Michel Foucault, qui a toute cette dernière partie de sa vie, qui, en quelque sorte, va être focalisée sur cette réflexion sur la sexualité, sur le désir, sur les plaisirs, sur les aphrodisias, et qui va donc aboutir à ce grand livre qui est le souci esthétique, le souci de soi, hein, le souci de soi. Et ce souci de soi chez Michel Foucault, eh bien, c'est vrai que très souvent, il va en quelque sorte s'orienter sur une expérience somatique qui est mise très à l'évidence, et qu'une expérience sadomasochiste, homosexuelle. Et donc toi, tu montres très bien que oui, pourquoi pas, mais au fond, pourquoi se limiter à cela? Il y a peut-être des plaisirs beaucoup plus doux, il y a peut-être des manières d'être en quelque sorte beaucoup plus, bien différentes pour le moins, qui permettent des expériences cognitives beaucoup plus intéressantes. Donc Michel Foucault, de très belles analyses également sur Simone de Beauvoir, ces textes de Simone de Beauvoir qui sont souvent peu lus, hein, des textes bien évidemment du deuxième sexe, où elle met en évidence la spécificité du comportement féminin pour en quelque sorte développer une réflexion peut-être plus poussée sur sa propre intimité. Et puis ces beaux textes de Simone de Beauvoir également sur la vieillesse, hein, donc Wittgenstein, William James et Dewey. Voilà en gros pour présenter très succinctement, hein, l'immense projet que développe Richard Chesterman depuis un certain nombre d'années, dirons-nous. Richard,
à toi. Okay. Merci beaucoup Bernard. Merci aussi aux organisateurs pour cette invitation. À mon avis, c'est la première fois que je suis invité dans un cadre de... des américanistes anglicistes qui ne sont pas des philosophes. Et je suis très content d'être aussi passeur dans le sens de mélanger la philosophie aussi avec la littérature. Je remercie aussi Bernard. Il faut dire que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était... pas dans un colloque. On a quitté le colloque pour aller se baigner dans un creek à Marseille. Et c'est par la natation qu'on se connaît. Et donc, c'est quelqu'un qui me connaît au fond. Et c'est important parce que c'est difficile de prôner une philosophie comme art de vivre et de ne pas le vivre. Et je pense que je suis que j'ai été invité ici en tant que passeur culturel. Et j'ai préparé un texte, c'est un texte annoncé. Peut-être je vais lire un petit peu pour montrer que je respecte ce public et je vous respecte beaucoup. Et les conférences de ce matin étaient, à mon avis, dans un niveau très, très élevé. Et je ne suis pas à l'auteur de lire un texte en français avec une élégance pareille. Qu'est-ce que ça veut dire un passeur culturel comme je le conçois dans mon propre cas, si je ferais une espèce d'auto-analyse? Pour commencer, je pense qu'il y a toujours des influences et des personnages exemplaires qui montrent la voie pour faire un tel travail. Et je dois mentionner trois personnes importantes qui ont rendu ma petite carrière en philosophie possible. C'est Richard Rorty, qui est mort presque exactement 3 ans, et mardi et mercredi, j'étais à Paris dans un colloque sur lui. Il m'a montré comment on pourrait mélanger les textes littéraires avec les analyses philosophiques. Il m'a montré aussi qu'on peut garder la rigueur philosophique de la philosophie analytique et quand même lire les philosophes pragmatistes. On me présente souvent comme philosophe américain et j'ai un passeport américain, mais je n'ai jamais étudié aux États-Unis. J'ai fait mon BA et mon MA à Jérusalem et le doctorat à Oxford. Donc, je n'ai aucune formation universitaire aux États-Unis et j'apprenais à Jérusalem et aussi à Oxford à mépriser les philosophes pragmatistes pour leur manière floue et ambigu à s'exprimer. Et c'est grâce à Richard Rorty, qui pouvait être très analytique, mais qui était très ouvert, que j'ai osé de relire les philosophes pragmatistes et d'être inspiré par eux. Un deuxième personne importante, et c'est toujours l'idée qu'un passeur culturel apprend des exemples des autres personnes, et c'est Arthur Danto, qui était aussi philosophe analytique, spécialiste de philosophie de l'art. Vous le connaissez très bien ici en France, il est beaucoup aimé en France et il aime beaucoup la France. Et de lui, j'ai appris qu'on pouvait traiter de la contemporanéité, même en philosophie, qu'il ne faut pas attendre jusqu'à une forme de vie est morte, comme Hegel l'a dit, pour que la philosophie s'occupe de cette forme de vie. Et si Danto pouvait écrire de Andy Warhol dans les années 60 et de Jean-Michel Basquiat, pourquoi moi je ne pouvais pas écrire sur le rap, par exemple, qui était comme Basquiat, plus ou moins dans le même contexte de la culture hip-hop. Une troisième personne à qui je dois beaucoup, qui est aussi décédée, c'est Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, c'est la personne qui m'a fait venir la première fois en France. C'est lui qui m'a invité. Et il m'a invité à cause de mes écrits dans la philosophie du langage et dans l'esthétique analytique. Et je peux vous raconter une histoire. En fait, on se connaissait par écrit, je ne l'ai jamais rencontré. Il m'a invité à un colloque à Berlin où il allait recevoir le titre Dr. Honoris Causa de Freie Universität de Berlin. Et il m'a invité et c'était avant de venir en France. Je parlais en anglais, je ne pouvais pas parler français. Et c'était le début de mon tournant pragmatiste. Et je pensais, parce que c'est le cas dans le champ intellectuel anglo-saxon, soit c'est les États-Unis, soit c'est l'Angleterre en philosophie, on fait honneur à quelqu'un aussi par une critique. Une critique montre que les propos de l'autre philosophe valent une critique sérieuse. Et c'est exactement le temps où j'ai commencé à m'intéresser à l'esthétique populaire et aux arts populaires et aux arts populaires de la culture noire. Et j'ai fait un texte sur forme et funk où j'ai critiqué Bourdieu d'une manière très, très polie et respectueuse en disant qu'il avait tort parce qu'il avait plutôt raison sur des principes plus grands. C'est-à-dire, pour expliquer, il avait tort de dénier la possibilité d'une esthétique populaire et de l'art populaire parce qu'il pensait que c'était une contradiction de termes, parce qu'il a universalisé du chant français pour le monde entier. Et j'expliquais, il avait raison qu'il ne faut pas universaliser avec l'esthétique, mais il le fait et il ne reconnaît pas qu'aux États-Unis, notre champ social et culturel est différent qu'en France. Et aux États-Unis, on peut avoir une reconnaissance des arts populaires parce que nous n'avons pas la même généalogie culturelle, nous n'avons pas une église officielle, nous n'avons jamais eu un corps central avec une aristocratie et nous n'avons pas non plus une formation unitaire nationale. Donc il n'y a pas la même centralisation qui peut créer les formes de culture que vous avez en France. Et, il ne m'a pas compris, Pierre Bourdieu. Il était hors de lui. Il me répondait en français. J'ai donné la conférence en anglais. C'était à Berlin où les gens comprennent anglais. Il a critiquer mes arguments et mes positions comme débiles et imbéciles, ce sont les mots qu'il a utilisés. J'étais très surpris que je n'étais pas tué par sa colère, mais en fait, ça m'a rendu beaucoup plus confiant et beaucoup plus à l'aise de voir son irritation. Et bien sûr, après tous les Allemands me sautaient là-dessus parce que c'était une célébration pour lui. Mais les jeunes Allemands, après, me prenaient toute la nuit dans les boîtes de nuit à Berlin. Et Jacques Bouveresse, qui était aussi présent, m'a pris à côté, il m'a expliqué qu'il ne faut pas faire comme ça en France, qu'il y a une autre culture de débat philosophique et on ne fait pas des critiques verticales. Et donc, en fait, j'avais déjà l'invitation de Bourdieu pour venir en France. Il ne pouvait pas le retirer, mais... Il ne me voyait pas beaucoup pendant le temps que j'ai fait mon séjour en France. Et pendant cette année, j'avais une année de bourse américaine, National Endowment of Humanities, pour écrire ce livre sur l'esthétique pragmatiste. Je ne le voyais pas beaucoup, mais avant de partir, par politesse, et sans des grands espoirs, je lui ai donné une moitié de mon livre, mais je pense une moitié de cette moitié était déjà traduite parce que j'avais des bons étudiants enthousiastes à Paris qui voulaient que je donne mes conférences et séminaires en français, donc ils m'ont traduit. Et je fais une parenthèse aussi, il faut remercier aussi mes traducteurs, parce que sans les traductions, je n'existe pas en France, et on peut avoir un bon livre, mais avec une mauvaise traduction, il n'y a pas de transmission de contenu. Je remercie beaucoup des traducteurs parce qu'ils ont un travail difficile et ce n'est pas souvent reconnu. Je pense qu'il y a des langues en Chine, par exemple, où mon traducteur, qui est un type vraiment brillant, améliore mon travail. Et c'est vrai qu'à travers des traductions en français et en allemand, j'apprends des choses, je vois des fautes. Il y a des ambiguïtés qu'on ne voit pas jusqu'à ce qu'ils sont traduits dans le mauvais sens. Je vous donne un exemple. Ici, ce passeur culturel, mon cerveau maintenant, c'est plutôt comme une passoire culturelle. C'est plein de trous, j'ai des fenêtres ouvertes, je ne sais pas ce qui reste. Donc, vous m'excusez, je peux vous raconter peut-être plus tard, je suis en train d'une série de voyages tout rond. Mais je vous donne un exemple, parce que dans ce livre « Conscience de corps », je parle aussi de ma pratique professionnelle en tant que kinésiothérapeute. Et je parle d'un monsieur qui est venu pour me voir, qui avait des problèmes, et en anglais, c'est « he had problems standing ». Donc, en français, c'était traduit, il avait des problèmes de rester debout. Mais en fait, c'est une bonne traduction, mais mon sens était, en français, c'est plus clair, il avait des problèmes de se mettre debout. Mais en anglais, c'est les deux. He had trouble standing up. He had trouble standing up. C'était en anglais, he had trouble standing up. Mais la traduction française, pas la définitive, parce que j'ai corrigé, mais la traduction française était « il avait des problèmes de rester debout ». Mais pour moi, le sens était de se mettre debout, parce qu'il avait des problèmes de genoux. Et je ne peux pas renoncer à vous donner un exemple, parce que si je voyage... c'est pour montrer des choses. Et des choses que les textes ne peuvent pas montrer. Je vous explique sans problème, et je vous explique comme ça la somme esthétique. Donc, ce monsieur qui avait plus que 80 ans, il avait des problèmes de genoux. C'est une chose que moi, peut-être, j'aurais un jour à cause d'avoir trop couru et d'avoir fait beaucoup de sport. Donc, quand il est venu, il avait déjà vu des médecins et qui donnaient des pilules, des, comme ça, des injections. En tout cas, et comme on fait toujours, il faut regarder comment la personne fait ses mouvements, fait cette action. Donc, j'ai vu qu'il se met debout comme presque chacun de nous. Donc, je dois finir l'histoire de Bourdieu, je sais. Mais ça montre que la somme esthétique, c'est une pratique et pas uniquement une théorie. Pour finir l'histoire de Bourdieu, je lui ai donné mon texte, une grande partie, et je n'attendais à rien, mais 10 jours après, sa secrétaire m'a appelé qu'il voulait me voir, et il m'a dit, Bourdieu, qu'il n'avait pas, il ne m'avait pas compris à Berlin, qu'il pensait que je n'étais pas sincère parce qu'il ne connaissait que mes articles en philosophie analytique. Et maintenant qu'il a lu le contexte de mon intervention à Berlin, il comprenait que je ne voulais pas faire un geste douci de tuer le maître, mais que j'avais vraiment une recherche assez détaillée et honnête sur la question des arts populaires. Donc, et moi, je lui ai dit que je le comprenais maintenant aussi, parce que après une année en France, on apprend un petit peu des mères françaises qui sont différentes des mères universitaires aux États-Unis. Donc, c'était un petit peu comme une histoire d'amour, de coup de foudre après un grand conflit et une réconciliation. Et Bourdieu, d'une certaine manière, était aussi un grand passeur des cultures, sociologie et esthétique, sociologie et politique, sociologie et philosophie, avec des études sur l'Algérie, avec des études de la misère du monde. C'est quelqu'un qui a vraiment franchi beaucoup de barrières. Et bon, c'est, après avoir lu le livre, même s'il y avait une forte critique contre lui, il a montré le livre à Jérôme Lindon. Et Jérôme Lindon l'a lu et a décidé de le publier. Donc, Bourdieu a dit une autre chose vis-à-vis de mon travail qui est pertinent à cette question de passeur culturel. Il a expliqué d'une manière sociologique mes intérêts pour des sujets obligés, des sujets oubliés, des propos et des questions négligées. Et pour lui, c'était une fonction de ma situation marginale et excentrée, c'est-à-dire je ne suis pas un vrai Américain, je ne suis pas un vrai Israélien, je ne suis pas... C'est-à-dire, quand j'étais à Oxford, une autre histoire personnelle, avec beaucoup d'implications pour ma recherche philosophique. Je suis arrivé à Oxford pour faire mon doctorat après 3 ans et demi comme officier dans le renseignement militaire d'Israël. Je voulais aller à Oxford et me présenter en tant qu'Américain parce que je pensais que ça serait le plus simple. Je parlais anglais, j'allais apprendre dans un lieu où on étudie, on parle anglais. Donc, dans le premier wine and cheese party, tous les étudiants et les profs se rencontrent. Il y a des questions de lieu commun automatique. Et, où avez-vous étudié? Et j'ai dit Jérusalem. Quelle est votre nationalité américaine? Est-ce que vous avez étudié à Cornell, à Princeton? Non. Où? À Jérusalem. Est-ce que vous venez de terminer votre maîtrise? Non. Et je viens de finir mon service militaire. Ah, vous êtes allé à Vietnam? Non, non, c'est une autre armée. Et donc, après coup je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me présenter à Oxford en tant qu'Américain parce que je n'avais pas la généalogie appropriée. Et c'était toujours une question, comment me présenter comme Américain ou Israélien? Et j'avais un ami sikh, qui, je pense, c'est quatrième, cinquième génération née à Wolverhampton, en Angleterre. Et lui, il reste sikh, il n'est pas britannique. Et il me disait, toi, tu n'es pas américain, tu n'es pas non plus israélien, tu es un juif de l'Europe de l'Est. Et en fait, c'est les origines de ma famille. Et si je fais un travail comme passeur culturel, ça peut être lié à cette marginalité qu'on peut essayer à dénier et oublier. Et j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ou on peut le prendre comme affiliation et de l'embrasser. Et c'était plutôt ma voix. Je suis d'une certaine manière une juive errante intellectuelle qui erre dans plusieurs directions. En France, je pense le titre d'article sur conscience de corps, c'était Richard Schusterman, philosophe nomade. Et en fait, le nomadisme, ça fait partie du travail d'un passeur culturel. Et, bon, un passeur, il fait passer les choses, mais pour faire passer, il faut passer aussi lui-même des choses. Et, je traverse des cultures différentes. Et, j'ai encore une curiosité, comme je viens de dire, j'ai des fenêtres ouvertes et on paye un prix, c'est-à-dire on perd beaucoup sur la question de champ local et on est parfois isolé, on ne sent plus bien dans un groupe ou une association universitaire spécifique parce que on voit déjà des limites de ce discours. On souffre aussi les méconnaissances. En France, par exemple, il y avait une époque où on m'appelait toujours le sociologue. Et pourquoi le sociologue? Parce que j'ai fait une recherche sur le rap. C'était impossible qu'un philosophe ferait une recherche sur le rap. Donc, je devais être un sociologue, surtout que j'étais publié dans la collection de Bourdieu. Voilà. Donc, j'ai deux sujets à aborder. Un sujet, c'est le sujet annoncé de pragmatisme et politique culturelle. Et l'autre, c'est un petit peu de montrer de quelle manière mon travail est un travail d'un passeur culturel. Et je peux lire, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais à mon avis, peut-être c'est mieux que je parle d'une manière plus libre. Je peux toujours lire le texte. Je vous annonce que ce texte en anglais sera publié la fin de mois dans New Literary History, ou la partie principale. C'est un texte sur Pragmatism and Cultural Politics qui est consacré à une articulation des différences entre ma manière à faire le pragmatisme et la manière que Rorty l'a fait, et on essaie de voir comment son dernier livre, Philosophy as Cultural Politics, peut ouvrir une voie où il pourrait peut-être se réconcilier avec ma somme esthétique, parce que Rorty avait une critique féroce de mon idée de la somme esthétique. Mais je pense plutôt, si vous voulez, après je peux vous lire, mais peut-être c'est mieux, je pense que c'est mieux de souligner comment je vois mon travail dans cette optique de passeur culturel. Et je vais regarder mes notes. Oui, il y a peut-être 4 points. Et j'ai déjà parlé de hybridité et impurité. C'est des idées qui étaient évoquées ce matin dans les conférences de ce matin. Donc, je suis hybride et impur. Mais moi, je prends l'hybridité d'une manière positive et je voudrais insister sur un point que j'ai développé dans la deuxième édition de Pragmatist Aesthetics, mais qui ce n'est pas édité en français. Peut-être je dois dire à minuit de faire une nouvelle édition de ce livre. Ma position est pragmatiste et une lignée importante dans le pragmatisme, c'est le pluralisme. Et je suis aussi pluraliste. Bernard a évoqué ma critique de Foucault. Je ne suis pas contre les drogues et l'érotisme extrême. Ma critique, c'est qu'il a ignoré d'autres plaisirs, qu'il a méprisé que trop simples, et peut-être conventionnel. Et il y en a aussi qu'il a tout à fait oublié. Les plaisirs de respirer, les plaisirs de marche. Bon. Mon plaidoyer pour la culture populaire ou les arts populaires était parfois mal compris comme une attaque de l'art élevé. Et ce n'est pas le cas. J'aime l'opéra, et j'aime la grande peinture. les gens n'arrivent pas à comprendre que la position de base que j'ai, c'est ce qu'on appelle la logique symbolique ou la logique informelle aussi, une disjonction inclusive. C'est-à-dire une disjonction en logique, c'est O-O. Une disjonction inclusive, ça veut dire, comme dans les restaurants ou dans l'avion, maintenant je passe plus de temps dans les avions que dans les restaurants, malheureusement, mais dans l'avion, on vous propose, vous voudrez du vin ou de l'eau. Mais on peut avoir les deux. Ça veut dire une distinction inclusive. On peut avoir du vin, de l'eau et même de la bière. Mais il y a aussi une distinction exclusive qui soit le premier, soit le deuxième, mais pas les deux. Et surtout, très souvent, on pense qu'un philosophe qui prône une chose, c'est pour dénigrer et répudier l'autre. Et une partie de mon travail de hybridité, c'est peut-être c'est un essai d'élargir les champs de plaisir et les champs de sens par des disjonctions inclusives. Et c'est un point vraiment important dans l'orientation de ma pensée. Et parfois, il faut choisir. Parfois, il faut choisir. Quand j'étais à Berlin, et il y avait un concert d'Africa Bambaataa. Il y avait un DJ dans un club techno que j'aimais. Et il y avait aussi un opéra de Wagner qui m'intéressait. Toutes ces choses la même soirée. Il fallait choisir. Mais si on peut éviter ces choix et avoir aussi les plaisirs du rap et les plaisirs de l'opéra, pourquoi pas? Donc c'est un principe de base qui est vraiment principal et qui est souvent, trop souvent oublié. Donc, passeur culturel, 4 points. Et je vais terminer comme ça parce que j'ai été formé par la télévision américaine. Et donc, mon seuil d'attention est assez limité. Et je pense les vôtres aussi après une longue journée de colloque. Donc, mélange de tradition philosophique dans mon travail, philosophie analytique et pragmatisme, philosophie française et allemande. Vous trouverez dans ce livre Wittgenstein, qui est en fin de compte pas allemande mais autrichien, les philosophes français et les philosophes américains. Ici, vous verrez aussi les mélanges de disciplines, Bourdieu, sociologue, les philosophes allemands Adorno, Schiller. Ici et maintenant dans mes textes actuels, je suis beaucoup influencé par les pratiques et les pratiques somatiques asiatiques et aussi par sa philosophie. Je pense que ce n'est pas une salade ambiguë. Je trouve des outils différents dans des autres traditions. Et une partie de mon travail, c'est faire parler les uns avec les autres. Mais quand même, il y a un discours dominant. Et c'est peut-être le discours d'un philosophe qui a été formé par la philosophie analytique, mais qui est ouvert aux autres traditions et disciplines. Deuxième point, c'est les arts populaires. Je suis très heureux d'avoir contribué à la légitimation du rap en France. Dans les années 90, après la publication de ce livre, et au moins pour 5 ans après, j'étais le philosophe du rap. Il y avait un seul chapitre sur le rap, mais c'était pour les journaux la chose la plus intéressante. Et je n'étais jamais invité au Bouillon de Culture, mais quand même, on m'a passé sur le rap line, M6, avec Olivier Cachin à cette époque. Et je connaissais les gens de Get Busy à Saint-Denis. Et vous ne savez pas peut-être que j'avais une rubrique dans un fanzine de rap à Philadelphie, dans le ghetto noir de philosophie. J'avais même une étiquette. Mon nom était Rich Frosted. Oui, c'est comme Ice-T, Cool Moody. Et moi, j'étais le seul universitaire et blanc dans le fanzine, mais je savais que ce n'était pas politically correct, mais je m'en fichais parce que les gens voulaient que je sois là. Et c'était très agréable d'aller à leur fête. Et je savais que Chuck D, Ice-T, tous, ils lisaient mes articles parce qu'ils étaient interviewés dans le même fanzine. Donc, d'une certaine manière, c'est pour vous montrer la complexité du champ culturel, au moins à cette époque, mais je pense que ça reste toujours valide maintenant. En tant que blanc, il y avait plus de froid en moi que dans leur soi-disant Soul Brothers à l'université. C'est-à-dire, Houston Baker était à cette époque à University of Pennsylvania et Skip Gates. Je le connaissais aussi à cette époque, mais comme j'étais tellement différent, il n'y avait aucune crainte que je pourrais prendre la parole pour eux. Tandis qu'avec les intellectuels noirs qui parlent pour les publics noirs défavorisés, il y a un vrai danger qu'ils se prennent et qu'ils seront pris comme la voix de ces publics défavorisés. Et donc, ces publics soupçonnent beaucoup ces professeurs des universités élites, qui sont les intellectuels noirs, qui prennent la parole pour des publics noirs. Donc, oui, c'est art populaire. Bernard a évoquer le corps. C'est aussi un travail de passeur culturel où j'essaie de passer aussi dans une transmission philosophique différente. Et moi, je fais des stages pratiques en somme esthétique. C'est une moyen de casser les limites de la transmission philosophique à des conférences frontales ou même des discours libres, mais quand même où on est assis et on ne travaille que les yeux, les oreilles, le cerveau, mais pas trop le corps. Donc, si vous voulez voir, et c'est en français, il y a des clips d'un atelier en somme esthétique que j'ai fait l'année dernière à Royaumont pour les danseurs, les chorégraphes et danseurs dans la formation de danse de Myriam Gulfink. Et la semaine prochaine, je fais un atelier pratique en somme esthétique encore 3 jours à Paris pour des plasticiens. Donc, ce n'est pas uniquement passer le corps dans les textes philosophiques, parce que, comme Nietzsche a bien dit, le corps est omniprésent dans la philosophie occidentale, mais c'est présent comme une espèce de ennemi au contraste, classe de contraste. C'est présent, mais c'est mal interprété. Et donc, c'est le cours sur le troisième point, et bon, ça m'amène au quatrième, et je viens de l'évoquer. C'est une hybridité de théorie et pratique. La somme esthétique, c'est une discipline transdisciplinaire. Au début, je pensais que ça serait une branche de l'esthétique, mais c'est trop compliqué pour cela. Et c'est transdisciplinaire, mais c'est aussi théorie et pratique. Et j'essaie de passer la pratique aux gens qui sont plus confortables et parfois trop confortables avec les théories, mais aussi c'est à l'envers. J'essaie de faire passer la théorie pour les gens qui ne sont pas confortables avec les théories. C'était le cas à Royaumont, où il n'y avait aucune personne entre ces danseurs a eu une formation universitaire même. Je ne parle pas d'une formation sérieuse en philo. Bien sûr, mes conférences, je ne mentionnais pas les noms. John Dewey, même pas Kant ou Platon, mais on peut introduire les idées philosophiques sans mentionner les grands noms. Bon, je vais terminer avec une autre toute petite histoire, et je suis aussi ouvert aux questions. Rorty a parlé d'une philosophie conversationnelle, et moi je m'ennuie de lire mes textes, même si j'ai un cerveau de passoire quand même, je reconnais mes textes, je connais les propos. C'est très fatigant pour moi de lire mes textes, mais je vais terminer avec une petite histoire que vous pourriez apprécier, une histoire vraie, parce que vous êtes plus que compétent en anglais. Et c'est un autre problème d'un passeur culturel, hybride, errant, nomade, qui a appris aussi sa propre langue anglaise dans des lieux différents, dans les traditions différentes. Comment s'est née la somme esthétique? Je m'intéressais au corps déjà dans l'art à l'état vif. Ça se termine sur une plaidoyer pour une esthétique de corps. Mais c'était l'esthétique du corps et pas la somme esthétique. Et il y avait 2 raisons pour lesquelles j'ai inventé ce terme. D'abord, pour éviter les mauvais sens de corps, corps contre esprit, corps comme la chair de péché, et donc aussi l'idée d'esthétique de corps, ça évoque tout de suite l'image de magazine Elle, avec les cosmétiques, tout ce que Bernard a dit de Miami, des très belles filles avec des tout petits maillots bains, les modes de Gianni Versace et aussi les interventions de chirurgie cosmétique. C'est le capital de chirurgie cosmétique aux États-Unis, ça et à Los Angeles. Donc, je pensais, somme, c'est assez différent du corps pour montrer que ce n'est pas une esthétique de corps style top model ou Arnold Schwarzenegger de bodybuilding. Mais la deuxième raison que j'étais séduit par ce néologisme qui n'est pas un néologisme dans la neurologie, mais qui est un néologisme dans les sciences humaines, c'était pour résoudre un problème tout à fait minime, mais très, très agaçant pour moi. Et c'est, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on écrit esthétique en anglais? Parce que vous savez qu'en anglais, on peut écrire le mot esthétique dans deux manières. Une manière que j'ai appris à Jérusalem et aussi à Oxford, et c'était nécessaire dans les deux pays de l'écrire comme ça, c'est avec un A avant le E. Oui, aesthetics, A-E. Mais en tant que philosophe analytique, pas de problème. Mais après le tournant pragmatiste, et quand on lit les livres de John Dewey en esthétique, L'art comme expérience, par exemple, esthétique, c'est écrit uniquement avec un E. Aesthetics, c'est E-S-T-H-E-T-I-C-S. Donc, je suis un philosophe américain, apparemment, et je suis en plus un philosophe pragmatiste dans la tradition douyenne. J'écris sur l'esthétique. Et pourquoi je n'écris pas aesthetics comme Dewey, avec ce tournant? Et en tant qu'esthète, je vois que c'est plus joli aesthetics A-E. Mais en tant que pragmatiste, le A, c'est sans fonction, c'est pas utile. Aesthetics, il n'y a pas, le A n'a pas une fonction phonétique. Aesthetics avec un A, aesthetics avec un E, seulement, ça revient au même. Some aesthetics m'a résolu le problème. Parce que le A dans le soma est nécessaire pour le concept. Ça ne change pas la vocalisation de aesthetics. Et pour ça, c'est différent en anglais. Some aesthetics, c'est plus facile. C'est, à mon avis, plus joli que somme esthétique. Ça marche aussi dans la langue allemande, parce qu'ils ont aussi la AE, c'est A avec un umlaut, c'est somme esthétique. Donc, pour moi, somme esthétique comme concept était une belle solution pour cette question lexigraphique qui m'ennuyait beaucoup, qu'il y a maintenant avec le Some Aesthetics une fonction pour l'A. L'A est nécessaire dans le Some Aesthetic, parce que sinon, c'est du partitif, Some Aesthetics, peut-être. Mais bon, Je vous laisse avec ces petites histoires vraies qui montrent comment la pensée philosophique peut être un petit peu poussée ou stimulée par des contingences linguistiques et aussi que des contingences personnelles de formation, des influences, des racines culturelles et des expériences vécues. Je suis un philosophe de l'expérience. Je pense qu'il y a aussi de la raison dans mes écrits, mais si je dois choisir entre la raison et l'expérience, je prends l'expérience et j'en ai souffert. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Richard, pour cette magnifique exposition de tout ton travail qui, on l'a bien vu, met en évidence les deux volets, le volet théorique et le volet pratique. Avant, une toute petite, peut-être, je crois que ce serait bien que tu précises également l'enracinement que, au fond, on n'a pas évoqué avec Feldenkrais et, Feldenkrais et Alexander. Juste un petit mot sur ça. Et puis également, l'autre volet, tu as fait un très bel article sur la stylisation de soi, le génie et l'originalité qui évoque Emerson. Emerson, c'est ce poète-philosophe, au fond, qui n'est pas très connu. Mais dans cet article, tu rappelais que Nietzsche le citait en préface du... enfin, comme ça, il le nommait, en préface du Gai Savoir. Je crois que ce serait intéressant de montrer en effet comment tout ce que tu dis sur... cette philosophie de l'art populaire, cette manière de redonner au corps une place qui n'est plus maudite comme dans l'histoire, en grande partie de la philosophie occidentale, mais au contraire, une place qui est une place qui est bénéfique. Et je crois que ce serait intéressant que tu abordes les deux côtés, le côté Feldenkrais, Alexander, et puis le côté peut-être Emerson.
Oui, avec plaisir. Bon, vous avez vu un exemple de mon travail professionnel en Feldenkrais. Comment je suis arrivé au Feldenkrais et à la aux technologies de corps professionnelles. Bon, j'ai dit que Rorty m'a converti au pragmatisme, et c'est vrai, mais à l'esthétique pragmatiste et aux arts populaires, c'était aussi une conversion à travers mes amis de danse. Et j'explique d'une manière... assez voilé dans la préface de l'art à l'état vif, comme je suis venu aux États-Unis en tant que philosophe analytique et que c'est par ce sort c'est dans les expériences de danse avec mes étudiantes en fait à cette époque que j'ai fait cette conversion. C'était pas une conversion tout à fait cognitive. Oh, cognitive, oui, mais pas tout à fait discursive. C'est par des pratiques. Et donc, comme j'ai fréquenté les gens de danse, ils me parlaient très souvent des pratiques et des techniques de thérapie, parce que des danseurs, ils ont très souvent des problèmes de dos, ils ont des accidents, ils se blessent très souvent. Et donc, comme ça, j'ai appris de ces techniques et j'ai fait l'expérience de plusieurs techniques. J'étais curieux. J'ai même passé certaines nuits dans les donjons aussi, pour aussi comprendre qu'est-ce que Foucault voulait dire. Mais en fin de compte, c'est comme avec la philosophie. On ne peut vraiment comprendre la philosophie simplement par la lecture indépendante. Il faut avoir un cursus pour comprendre d'une manière systématique. Donc, j'ai décidé de passer une formation professionnelle dans une des techniques et j'ai choisi la technique Feldenkrais pour des raisons que j'explique dans un article publié dans un recueil en France. Et oui, c'est comme ça que je suis arrivé à cela. Et j'ai une pratique, j'ai un cabinet. Je ne gagne pas ma vie comme ça, mais je reçois des clients parce que si je ne fais plus, j'ai peur de perdre mes compétences, parce que c'est une question de qualité de touche, de sensibilité, de compréhension du senti de l'autre. Et comme ça, je garde aussi dans ma vie professionnelle aussi une partie de thérapie. Pour Emerson, c'est la même chose que pour Dewey. Emerson est un génie. J'ai écrit un texte dans la Revue internationale de philosophie. En fait, après ce livre, L'art, l'état vif, j'ai eu la très bonne chance d'avoir des lecteurs aimables qui m'ont beaucoup écrit pour me donner des sources différentes, des idées parallèles. Et c'était le cas avec Emerson. Emerson n'était pas une partie de ma formation universitaire. Et je ne l'ai jamais lu. À Jérusalem, où le cursus était plutôt les philosophes analytiques, Kant, Hegel et l'histoire de la philosophie. Et après la publication de ce livre, les gens me disaient « Vous devez lire Emerson, vous devez lire un autre personnage que vous connaissez bien sûr, c'est le philosophe américain noir Alan Locke, qui est un des le leader intellectuel de la Renaissance de Harlem. Et bon, il voyait que je parlais du rap, de l'esthétique populaire, que j'étais impliqué aussi dans le champ culturel noir d'une certaine manière. Pourquoi je ne connais pas Alan Locke? Donc, c'est à travers les réactions au livre que j'allais chercher Emerson, et c'était une grande découverte. Emerson, comme Michel Montaigne, c'est un de mes auteurs les plus préférés. Je lis Montaigne ainsi que Emerson pour le plaisir. Je suis très flatté de venir à son université. Et je vous dis que chaque fois que je viens à Paris, presque comme pèlerinage, parce que la librairie La Compagnie, c'est très proche de la statue de Montaigne. C'est dans un petit square près de Rue des Écoles, ou sur Rue des Écoles, en fait. Mm-hmm. Rue des Écoles, c'est près du musée de Cluny. Chaque fois que je suis à Paris, je fais un pèlerinage à cette statue de Montaigne et je lui donne mes respects parce que c'est quelqu'un qui... Bon, il y a déjà plusieurs siècles, a dit la même chose, que la philosophie, c'est un art de vivre, c'est pas un art pour mourir. C'est Montaigne qui a commencé avec cette idée, qui a été reprise par Adot et par Foucault. Et chez Emerson, je voyais tous les points philosophiques que j'ai trouvé avant chez Dewey, mais exprimé d'une manière plus poétique, plus jolie, mais moins philosophique. C'est dommage que la philosophie doit être parfois écrite d'une manière chiante pour être acceptée comme légitime. Et ce qui est très bien chez Danto, chez Rorty et chez William James, ils sont exemplaires pour moi, qu'ils écrivent très très bien. Et je n'y arrive pas, mais j'essaie aussi d'avoir une lecture, de donner au lecteur un plaisir. Comme faisait Montaigne, comme faisait Emerson. Donc, Emerson, c'est quelqu'un qui était un pragmatiste avant les lettres, dans son miliorisme, dans son pluralisme et dans son respect pour le quotidien et pour l'ordinaire. Si vous lisez son petit essai sur l'art, vous trouverez tous les grands points en esthétique qui Dewey après a développé. Et en fait, pour finir, je reviens aussi à faire un essai merveilleux comme l'essai de Montaigne avec le titre « Expérience ». En fin de compte, l'expérience m'a guidé dans mes recherches philosophiques, mais il faut trouver des légitimations dans l'histoire. Il faut trouver des grands philosophes qui travaillent sur votre côté, qui ont écrit des textes de génie, qui soutiennent les idées que vous avez trouvées par votre propre expérience. Et chez Emerson, comme chez Montaigne, je trouve ces grands auteurs. Et si on fait des textes où on combine la prose d'Emerson avec les citations de Montaigne, on crée un texte très joli à lire parce que, en fait, c'est le génie d'Emerson et le génie de Montaigne. Et moi, je ne suis qu'un médiateur qui combine les jolies phrases. Et j'en profite, je profite de leur génie.